VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Anastasie Tudiach avec vous en direct de Washington pour cette édition de 17h30 en temps universel. Voici les titres. En République démocratique du Congo, un agent de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, a été assassiné dans le Kasaï. Deuxième jour de grève des enseignants au Burkina Faso. Le gouvernement du Tchad cède face à la pression syndicale et ne baissera pas les salaires des fonctionnaires. En Tunisie, 7 ans après le départ du président Ben Ali, les manifestations contre la vie chère continuent. Dans 10 minutes, toute l'actualité sportive et économique, mais d'abord le journal. En République démocratique du Congo, un membre de la toute-puissante Agence nationale de renseignement, l'ANR, a été tué et décapité dans la nuit de mardi à mercredi dans la région du Kasaï, dans le centre du pays, par des présumés miliciens opposés au pouvoir de Kinshasa, a-t-on appris de sources locales. Cette région traverse un regain de tension après une accalmie dans les violences qui ont commencé en septembre 2016 après la mort d'un chef local. La lutte syndicale paie au Tchad. Le projet de diminution de 5 à 45% des salaires des agents de l'État envisagé par le gouvernement pour juguler la crise que traverse le pays ne passera pas. Et c'est le premier ministre tchadien qui a informé les partenaires sociaux ce mercredi à son cabinet. Faisons le point avec André Kodmajingar.
Le projet de réduction des salaires des agents de l'État au Tchad, les forces vives grognent et le gouvernement recule. Selon les indiscrétions, le décret d'application serait même dans le circuit. Mais, constatant la détermination des travailleurs à gérer la rue, si ce projet jugé sadique entre en vigueur, le Premier ministre Payimi Padagé Albert lui-même annonce aux partenaires sociaux que le gouvernement renonce à ce projet. Payimi Padagé Albert instruit le comité technique de dialogue social d'engager un dialogue franc avec les forces vives de la nation pour qu'une économie de 30 milliards de francs CFA soit faite conformément à la recommandation des partenaires financiers, notamment le FMI. Payimi Padagé Albert instruit le comité technique de dialogue social d'engager un dialogue franc avec les forces vives de la nation pour qu'une économie de 30 milliards de francs CFA soit faite conformément à la recommandation des partenaires, notamment le FMI. Tout en prenant acte de cette capitulation, les syndicalistes se disent disposés à faire des propositions au gouvernement pour améliorer les recettes et les dépenses afin de répondre aux exigences des partenaires financiers que de chercher des pots sur les travailleurs qui ne sont pas responsables de cette crise. À l'issue de cette rencontre de ce 10 janvier, les membres du gouvernement en présent ont esquivé les micros et caméras, y compris Abdoulaye Sabre Fadou, le ministre des Finances, qui défend bec et ongle ce projet. André Kodmajingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Deuxième jour de la grève de 72 heures des enseignants du Burkina Faso, où l'école est paralysée depuis des mois. Des détails, Bagassi Koura.
Les syndicats qui réclament de meilleures conditions de travail et un traitement spécial ont durci le ton et menacent le pays d'une année blanche. Après de négociations non abouties, les syndicats désavouent désormais leur ministre de tutelle.
Il n'est plus notre interlocuteur, donc nous négocions directement avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre.
Wenyam Zongo est le coordonnateur national des syndicats de l'éducation.
À l'étape actuelle, nous ne pouvons pas dire que les négociations sont à notre goût. Mais de toute façon, ça a commencé et ça va tout doucement. Nous allons rester vigilants jusqu'à ce que nous puissions obtenir un protocole d'accord. C'est ce que nous attendons.
Cet après-midi, justement, le Premier ministre Paul Kaba Thiéba a animé une conférence de presse sur la question. Il s'est dit disposé au dialogue. Nous allons trouver une solution équilibrée qui satisfait les enseignants, mais qui tient compte de la situation financière du pays, a dit M. Kaba. Il a notamment souligné que la masse salariale de la fonction publique a atteint un niveau critique dépassant les 52% du budget de l'État. Pour l'heure, aucune solution ne semble faire fléchir les syndicats.
Bagassi Koura. Le gouvernement sénégalais va accentuer la répression du trafic de bois dans la région forestière de Casamance. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, à la suite du massacre de 13 jeunes hommes partis chercher du bois mort le 6 janvier. L'armée sénégalaise poursuivait ce mercredi ses recherches des auteurs de la tuerie qui s'est déroulée dans la forêt de Borofay, à proximité de Ziguinchor, principale ville de cette région agricole et touristique, située entre la Gambie au nord et la Guinée-Bissau au sud. La police malienne a dispersé une manifestation d'une centaine de personnes contre la présence militaire française aujourd'hui à Bamako, à la veille du 5e anniversaire du lancement de l'intervention de Paris dans le pays. Les observateurs électoraux de l'Union européenne ont publié ce mercredi un rapport final très critique sur le scrutin présidentiel kényan de 2017, qui accuse notamment les responsables politiques d'avoir nui au processus électoral et dont la présentation, le rapport en question présenté à Bruxelles, a provoqué l'ire de Nairobi. Le président Uhuru Kenyatta a été réélu à l'élection du 26 octobre, boycotté par l'opposition au terme d'un feuilleton électoral à rebondissement. Sa victoire lors d'un premier scrutin organisé le 8 août, auquel l'opposition avait participé, avait été invalidée en justice pour irrégularité dans la transmission des résultats. Plein d'espoir pour ces élections, les Kenyans ont finalement connu de multiples déceptions, a déclaré la chef de la mission d'observation, la néerlandaise Mariette Schake, une députée européenne, lors d'une conférence de presse retransmise sur Internet. Et Madame Schake d'ajouter, le Kenya reste profondément divisé. Les députés du Somaliland ont adopté, pour la première fois de l'histoire de cette république autoproclamée, une loi punissant les auteurs de viols. Et cette loi a été saluée comme une victoire pour les femmes, une victoire dans un territoire musulman conservateur. Plus de 200 personnes ont été arrêtées et des dizaines blessées lors d'une nouvelle nuit de troubles en Tunisie, alimentée par la hausse des prix et un budget d'austérité prévoyant des augmentations d'impôts. Nathalie Barge.
La nuit dernière, 49 policiers ont été blessés, 206 personnes arrêtées et des fourrières ont été attaquées, selon le ministère de l'Intérieur. L'armée a été déployée autour de banques et bâtiments gouvernementaux sensibles dans les principales villes du pays. À Sidi Bouzid, des jeunes ont coupé des routes, jeté des pierres et la police a répliqué à coups de gaz lacrymogène. Des incidents ont également eu lieu à Kasserine, Gafsa, Jedaïda et dans plusieurs quartiers populaires de Tunis. La veille, la contestation a dégénéré en émeute à Tunis et Tebourba, où des heurts ont éclaté après la mort d'un homme durant une manifestation. Les manifestants accusent la police de l'avoir tué, ce que dément le ministère de l'Intérieur.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et ailleurs dans le monde, le rapport est le premier du genre émis par le Congrès à détailler les efforts de... Pardonnez-moi, un nouveau rapport d'un comité de démocrates du Congrès américain met en garde contre l'intensification des interférences russes à travers toute l'Europe. Le document conclut par ailleurs que le président Donald Trump n'a proposé aucun plan stratégique pour faire face aux ingérences systématiques du Kremlin. Saloua Jafari.
Le rapport est le premier du genre émis par le Congrès à détailler les efforts de la Russie pour saper les démocraties depuis l'élection présidentielle de 2016. Le texte n'hésite pas à blâmer le président américain pour ce qu'il décrit comme un échec à répondre aux activités de déstabilisation croissante de Moscou aux États-Unis et dans le monde entier. Jamais auparavant, un président américain n'a si clairement ignoré une menace aussi grave et croissante pour la sécurité nationale des États-Unis, prévient le rapport. Aucun des républicains à la Commission des affaires étrangères du Sénat n'a signé ce rapport de plus de 200 pages, publié par le sénateur Ben Cardin du Maryland, le principal démocrate de la Commission. Mais même sans le soutien de l'ensemble du Congrès, le compte-rendu des opérations russes dans 19 pays européen préfigure l'enquête bipartite à venir du comité de renseignement du Sénat sur le rôle de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Le sénateur Cardin a déclaré qu'il avait commandé ce rapport pour que les Américains puissent voir la portée et l'ampleur des efforts du président Vladimir Poutine pour saper la démocratie, alors que selon lui, le président Trump reste inactif.
Plus de 3000 chrétiens, dont deux tiers au Nigeria, ont été tués dans le monde entre novembre 2016 et octobre 2017 pour des raisons liées à leurs croyances, un nombre en nette hausse, c'est ce qu'a indiqué l'ONG Portes Ouvertes. Cette organisation protestante a publié aujourd'hui son index 2018 des 50 pays où les chrétiens sont les plus persécutés, qui fait état de 215 millions de personnes victimes d'un degré de persécution fort à extrême, soit une personne sur 12 dans le monde. La Corée du Nord figure pour la 17e fois d'affilée en tête de l'index annuel, bâti sur des indicateurs mesurant les violences exercées, mais aussi une oppression quotidienne plus discrète. Suivent l'Afghanistan et la Somalie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire veut faire du tourisme le troisième pôle d'activité du pays pour devenir la cinquième destination africaine. Le ministre du Tourisme Siandou Fofana a annoncé un fonds souverain de 3 000 milliards de francs CFA pour renforcer la capacité hôtelière pour le tourisme d'affaires, de loisirs ou balnéaires. En 2016, 2 millions de touristes ont visité le pays, dont 500 000 locaux et 1,5 million d'étrangers. Le secteur touristique a créé 120 000 emplois directs. Le gouvernement béninois a cédé au port d'Anvers la gestion de la plateforme portuaire de Cotonou. Cet accord sur 10 ans vise à moderniser des infrastructures du port de Cotonou pour en faire le port le plus performant de la sous-région. Il reçoit plus de 12 millions de tonnes de fret par an et constitue une passerelle de choix vers le Burkina Faso, le Niger et le Mali. L'avionneur américain Boeing a livré un nombre record d'avions commerciaux en 2017. Il a enregistré 912 commandes évaluées à près de 135 milliards de dollars. Le carnet de commandes s'établissait à 5 864 avions à produire au 31 décembre contre 5 715 fin 2016.
Place au sport à présent avec vous, Nicolas Pinault. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, le Paris Saint-Germain poursuit sa course au titre?
Eh oui, Amiens-Paris Saint-Germain, c'est ce soir en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Edinson Cavani, qui ne figure pas dans le groupe convoqué par Unai Emery pour se déplacer ce soir, comme Javier Pastore, l'autre retardataire de l'hiver. Il aurait dû s'entraîner au camp des loges pendant que son équipe, pour la deuxième fois de suite, allait jouer à l'extérieur. Si le club parisien refuse de dire qu'il s'agit d'une sanction, en tout cas cela y ressemble. Et hier, Monaco s'est qualifié pour les demi-finales de cette Coupe de la Ligue grâce à une victoire 2-1 face à Nice.
Un joueur algérien libéré de son contrat avec Lorient.
Et oui, le FC Lorient qui a libéré Walid Mesloub de ses 6 derniers mois de contrat d'un commun accord avec le FC Lorient. Mesloub, 32 ans, quitte donc les Merlus aujourd'hui. L'intéressé portait les couleurs bretonnes depuis 2014. Il a disputé 82 matchs de championnat de France avec le FC Lorient.
Et puis triste nouvelle, l'Italie n'aura pas de nouveau sélectionneur avant juin prochain.
Et oui, puisque le successeur à la tête de l'équipe nationale d'Italie, Gianpietro Ventura, le sélectionneur limogé en novembre, ne sera pas connu avant le mois de juin. C'est ce qu'a déclaré le président de la fédération. On rappelle que sont sur la liste pour lui succéder Roberto Mancini, l'actuel entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg, Antonio Conte en poste à Chelsea, ou encore Carlo Ancelotti, on verra, qui lui succédera à la tête de la squadra Azzurra.
Nicolas, nouveau soupçon de pot de vin contre l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter.
Et oui, le parquet anticorruption de Vienne a confirmé avoir ouvert une enquête pour corruption visant le patron de la Fédération autrichienne de football, Leo Wittner, à la suite d'un versement suspect de 100 000 dollars effectué par l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter. C'était en 2015. Leo Wittner, 67 ans, est à la tête du foot autrichien depuis 2008. En mai 2015, la Fédération avait voté contre la réélection de Blatter pour un 5e mandat à la tête de la FIFA.
Et on se quitte avec la très attendue NBA, le championnat de basket nord-américain.
Et oui, puisque la soirée d'hier soir a vu les Toronto Raptors, deuxième de la conférence Est, se faire surprendre à domicile par le Heat de Miami, vainqueur 90-89. Dans la conférence Ouest, CJ McCollum, avec ses 27 points et ses 7 passes décisives, a porté Portland à la victoire sur le parquet d'Oklahoma City, 117-106. Et puis dans les rangs de Dallas, l'inusable Dirk Nowitzki, qui aura 40 ans en juin prochain, eh bien, il a encore contribué contribué à hauteur de 20 points grâce au succès des Mavericks sur les Magic d'Orlando, 114 à 99. Enfin, les Lakers de Los Angeles, après 9 défaites consécutives, ils ont enchaîné un deuxième succès d'affilée en dominant au Staples Center les Kings de Sacramento.
Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. À présent, nos dossiers du jour et nous commençons à Boaké en Côte d'Ivoire. Le contentieux entre militaires du 3e bataillon de Boaké et les éléments de la force mixte du CCDO a encore dégénéré la nuit dernière. Après les échanges de tirs entre ces deux forces de l'armée le vendredi dernier, des tirs qui ont occasionné la mort d'un soldat et fait un blessé, c'est à l'arme lourde que le centre de coordination des décisions opérationnelles a été pilonné par les militaires qui réclament le départ du lieutenant Traoré Amoudé. Les détails sur place à Boaké avec le correspondant de VOA Afrique, Siriki Barrault.
C'est à l'artillerie lourde que les militaires sont venus à bout des éléments de la force mixte du CCDO dont la base se trouve au quartier Sokoura à moins de 5 km du camp 3e bataillon. À l'origine de cette guerre entre frères d'armes, le lieutenant Traoré Amoudé, connu comme étant le commandant des hommes du CCDO à Boaké. Selon ce sous-officier militaire impliqué dans les événements, le lieutenant Traoré Amoudé a composé une milice au sein de l'armée qu'il faut combattre.
Amoudé vraiment, il a créé la piscule dans la ville de Boaké, tant au niveau civil que même au niveau des corps habillés. Son service là, c'est un service qui s'arrête seulement au renseignement. Et pense bien qu'il donne les renseignements au CCDO. Après ce renseignement, ça doit s'arrêter là. Mais il va au-delà de ses missions puisqu'il a des petits qui ont des armes, lui-même il est armé, il a pu prendre une poudrière. C'est un civil ne doit pas avoir ce genre de guerre. Il y a deux versions de CCDO. Il y a le CCDO réel que le gouvernement connaît et maintenant il y a le CCDO version Amoudé. Donc c'est la version Amoudé que nous ne voulons pas voir. Quand on est venu au sein du camp, le côté où le gouvernement connaît, nous n'avons pas agi, c'est sur le côté Amoudé qu'il y a eu des tirs là-bas.
Il confirme également que malgré l'attaque, le lieutenant Traoré Amoudé est sain et sauf.
Présentement, on ne l'a pas vu, on n'a pas trouvé de corps, donc on pense bien qu'il s'en est sorti.
Les populations, elles, à l'image de Sila Bangali, se demandent bien à quand la fin de ces troubles occasionnés par les hommes en armes.
Nous-mêmes, nous nous posons la question, quand tout ça va cesser un jour pour nous? Nous sommes beaucoup écœurés. Souvent, on a l'impression qu'on se croit toujours encore dans la rébellion, qu'il faudrait bien que ça cesse.
Excédé par les regains de tension au sein de l'armée dans cette ville du centre de la Côte d'Ivoire, certains accusent les autorités. C'est le cas de ce couturier habitant les environs du 3e bataillon.
Pour nous, c'est comme... Les autorités, là, ils s'en foutent de Boaké. Parce que ce qui s'est passé vendredi, normalement, les gars devraient venir en parler, les militaires, quoi, à les CCDO, là. Mais ils n'ont pas fait. Boaké ne mérite pas ça, là.
Pour l'heure, aucun bilan officiel n'est disponible. Néanmoins, on déplore d'importants dégâts matériels. La base du CCDO incendiée et des véhicules calcinés. L'attaque a également fait 2 blessés, dont l'un dans un état grave. Il fait partie de la garde rapprochée du lieutenant Traoré Amoudé. Et selon nos informations, il a été évacué dans un hôpital à Abidjan. À leur éveil, les populations, encore apeurées, ont repris leurs activités. La vie a repris son cours normal. Seule la quasi-totalité des établissements financiers sont restés fermés. Siriki Barrault, Boaké, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Cheikh Sidi Mokhtar Mbake, calife général des Mourides, la plus importante communauté religieuse du Sénégal, est décédé dans la nuit du mardi au mercredi. Guide respecté et très influent, le calife a dirigé la communauté Mouride pendant 7 ans. Malgré l'annonce tardive de son décès, les fidèles ont convergé par milliers vers la ville de Touba, à plus de 200 km de Dakar, pour lui rendre un ultime hommage. C'est une correspondance de Seydina Abagay depuis Dakar.
C'est par dizaines de milliers que les fidèles mourides ont rallié la ville de Touba dès les premières heures et ont suivi le rappel à Dieu de leur guide spirituel. Massés devant le mausolée du défunt calife, les fidèles sont submergés par la tristesse. Certains, comme Malik Sall, n'en revient toujours pas.
Nous ressentons une peine immense. Cette disparition nous affecte énormément. Nous venons de perdre un guide, une référence et un érudit hors pair. Notre douleur est sans limite. Je ne peux même pas décrire la brutalité de cette nouvelle et le choc que cela nous a causé. La communauté mouride vient de perdre un grand homme. Je suis tellement ému que je n'arrive pas à m'exprimer.
Pour Pape Cham, les disciples ont perdu plus qu'un guide.
C'est une douloureuse nouvelle qui a surpris tout le monde. On ne s'y attendait même pas vu tout le travail qu'il a batté au quotidien et tous ses projets pour la communauté musulmane en général et la confrérie mouride en particulier. Il a initié l'extension de la grande mosquée de Touba et a construit le plus grand complexe religieux de Dakar. C'était un grand bâtisseur, un unificateur qui a toujours prôné un islam de paix et de tolérance.
Au-delà des fidèles, plusieurs personnalités se sont déplacées dans la ville sainte de Touba. Venu présenter ses condoléances, le chef de l'État, Macky Sall, a salué la dimension universelle de l'homme.
Le Sénégal vient de perdre un guide multidimensionnel dont l'œuvre va au-delà de la communauté mouride. Le défunt Khalif a réussi le plus difficile, à savoir unifier les confréries musulmanes du Sénégal. Il est aussi parvenu à renforcer l'harmonie et l'entente entre les communautés. Son œuvre va au-delà de nos frontières. D'ailleurs, plusieurs présidents, dont celui de la Gambie, m'ont appelé pour me présenter leurs condoléances.
Pour les mourides, une nouvelle ère s'ouvre avec le 8e khalife de Cheikh Ahmadou Bamba, une personnalité qui fait l'unanimité dans le cœur des mourides, comme l'affirme Hassan Sarr, un fidèle qui pense que le nouveau khalife fera dans la continuité.
Serigne Mountakha Mbake est à l'image de son prédécesseur. C'est un soufi, un fédérateur et nous plaçons beaucoup d'espoir en lui. Nous pensons qu'il sera à la hauteur de sa mission car il faisait un excellent travail avant même d'accéder au califat. Alors une fois calife, nous sommes certains qu'il n'aura aucun problème pour pérenniser le legs de son défunt prédécesseur. Le nouveau calife a un discours franc et fédérateur qui nous rassure et nous procure beaucoup d'espoir.
Le défunt calife, aux commandes de la communauté mouride depuis juillet 2010, laisse derrière lui une œuvre globalement appréciée. Son successeur aura la lourde mission de poursuivre les actions qu'il avait initiées dans la sphère mouride et bien au-delà. À Touba, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur la crise financière que traverse le Tchad, contraint de réduire à nouveau les salaires des fonctionnaires. D'autres pays africains se voient également obligés à prendre des mesures d'austérité pour sortir du marasme économique et satisfaire les bailleurs de fonds. Mais les fonctionnaires doivent-ils en faire les frais? Les gouvernements africains comme celui du Tchad n'ont-ils d'autre choix que d'augmenter les prix et de diminuer les salaires? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Cameroun, au moins 43 personnes sont mortes en 2017 sur des sites miniers exploités puis abandonnés par des sociétés minières dans l'est du pays. C'est ce qu'a révélé un rapport de l'ONG FODER, Forêt et Développement Rural. L'ONG a lancé depuis 2 ans une campagne pour la restauration des sites abandonnés par les exploitants, mais rien n'est encore fait d'après elle. Yacouba Ouedraogo a joint Justin Chekwa, chef de projet à l'ONG FODER.
Généralement, les entreprises minières qui exercent dans l'activité d'exploitation minière semi-mécanisée, quand elles finissent d'exploiter, elles ne rebouchent pas les trous. Et les populations riveraines vont dans ces trous pour extraire le reste des graviers. Étant donné que les sites ne sont pas sécurisés, ça entraîne généralement des éboulements de terrain qui rebouchent ces personnes dans les trous. Le deuxième cas, il y a parfois les gens du passage sur les routes en allant dans les activités, parfois ils se retrouvent dans les trous.
Est-ce qu'il y a une loi qui encadre cette réhabilitation des sites miniers après exploitation?
Normalement, les entreprises qui exploitent ont l'obligation de reboucher les trous, de stabiliser le milieu à la fin de l'exploitation. Ce qu'on constate sur le terrain, la majorité des entreprises ne retiennent pas les trous. Ce qui fait que bien mieux les populations dans ces chantiers, parce que la ressource est maintenant plus facile à exploiter. Avant, les communautés avaient de la peine parce qu'ils allaient utiliser les roues, les pelles et les pieux pour creuser les trous. Donc le fait que les entreprises laissent les trous béants, ça facilite l'accès à la ressource. Ce qui fait que même les enfants se retrouvent dans ces trous abandonnés.
Qu'est-ce qui est fait pour amener les entreprises qui exploitent ces sites miniers-là, à réhabiliter les sites et donc à reboucher les trous après exploitation.
Il y a deux ministères qui sont chargés de suivre la réglementation en matière d'exploitation des ressources naturelles, de réhabilitation des sites. Il y a d'abord le ministère de l'Environnement à qui la responsabilité incombe de veiller à ce que les entreprises rebouchent les trous. Et maintenant, le ministère des Mines est chargé de veiller à ce que l'exploitation artisanale se déroule selon le cahier de charges qui a été attribué à l'entreprise. Mais on constate sur le terrain que les administrations qui sont chargées de faire reboucher le trou n'ont franchement pas de force parce que les entreprises qui sont sur le terrain sont plus souvent soutenues par des autres personnalités du pays. Ce qui fait que les actions vraiment de coexistence avec ces entreprises pour reverser les trous n'ont pas été faites. Il y a beaucoup de trafic d'influence dans ce secteur qui ne permet pas déjà à l'administration au niveau local de faire sérénement son travail.
Mais en attendant, il faut peut-être aussi sensibiliser pour que ces personnes ne se retrouvent pas dans ces sites qui deviennent des tombes à ciel ouvert.
Il y a un niveau de sensibilisation que nous faisons. Qu'elles prennent des mesures minimum de sécurité, mais nous sommes dans un contexte où les communautés vivent exclusivement de l'activité minière. Il faudrait que l'administration prenne des mesures fortes. Parce que si les trous étaient rebouchés, la population ne serait pas en train d'aller dans ces trous. Donc le travail de sensibilisation qu'on fait, c'est vrai, c'est pour qu'ils prennent conscience. Mais il serait difficile pour une communauté qui ne vit exclusivement de l'exploitation minière et qui trouve qu'il y a un poids payant de ne pas y aller. C'est ça la grosse difficulté.
Justin Chekwa de l'ONG FODER, joint à Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Algérie, des centaines d'Algériennes sont abandonnées par leur mari après une ablation du sein due à un cancer. Une épreuve dont elles ressortent souvent détruites quand la société tourne le dos à ces femmes. C'est un récit de Salwa Jafari.
Il y a des choses pires que la maladie. Le fait d'abandonner sa femme malade après 18 ans, pas une année, et des enfants, des jeunes filles qu'il faut protéger. La vie, elle est dure ici en Algérie. Abandonner des jeunes filles, abandonner une femme, je trouve que c'est la maladie elle est plus propre. Et plus saine.
Comme de nombreuses Algériennes, Linda dit avoir été abandonnée par son mari après une ablation du sein. Il l'appelait Nesmra, demi-femme, ou Lemkta, la mutilée, raconte cette assistante médicale la voix nouée plusieurs années après la séparation.
Vous imaginez, madame, qu'on est mariée, près de mes
jubilés. Vous travaillez, vous faites les courses, vous éduquez les enfants, vous vous faites battre, mais vous êtes patiente. Vous vivez une vie normale et tout d'un coup, tout est fini.
En Algérie, chaque année, des milliers de femmes sont diagnostiquées d'un cancer du sein la plupart du temps et n'ont d'autre choix que l'ablation chirurgicale de cette partie de leur corps profondément associée à leur féminité. Hayat raconte que son fiancé l'a abandonnée après lui avoir annoncé qu'elle allait subir une opération. « Il m'a dit, je veux une femme entière, pas les trois quarts d'une femme », a déclaré cette étudiante de 30 ans fondant en larmes. Samia Gasmi, responsable d'un organisme de lutte contre le cancer du sein, dit que beaucoup de femmes sont abandonnées par leur mari juste après leur diagnostic. Les laissant seules pour faire face à des traitements drastiques, elles se retrouvent parfois dans la rue.
La malade qui refuse dénoncer sa maladie, elle dit non. Pourquoi ? Parce que d'autres personnes, ils se font fuir.
Elle pense que leur mari va les abandonner, que leur belle-mère le pousse au divorce, alors que ce n'est pas une maladie contagieuse.
Alors c'est pas une maladie contagieuse.
Ces femmes considèrent leur maladie comme honteuse, ajoute Gasmi. L'une d'elles a refusé d'en parler à sa propre sœur, tandis qu'une autre a commencé à porter le hijab, le voile islamique, avant la chimiothérapie.
Des malades, avec leur chimiothérapie, elles sont là à porter une perruque, à porter le hijab bien avant de faire leur chimiothérapie. Elle sait qu'elle va perdre ses cheveux.
Chaque année, 9 000 à 10 000 cas de cancer du sein sont enregistrés en Algérie. Environ 3 500 Algériennes en décèdent. Pour celles qui subissent une ablation du sein, l'accès à la reconstruction est difficile. Les structures publiques qui l'offrent gratuitement sont surchargées et dans le privé, l'opération est très coûteuse.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention à la console Georges Léonard Sagno, assisté de Aiden Outkou. On reste connecté sur Facebook et également via notre site internet www.voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Restez à l'écoute de nos programmes.